Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM, 17h30, 5h30.
Bonjour, nous sommes le lundi 19 octobre, vous écoutez Radio Campus Paris, je crois que quelqu'un vient de vous le dire. Il est 18h et 18h le lundi, désormais c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Nouveau petit ajustement, mais promis, ça ne devrait plus changer. La relève, c'est un lundi sur deux, 15 minutes avec les créateurs d'aujourd'hui. Notre invitée d'aujourd'hui est numéro 1, mais elle ne tape pas que sur des bambous. Bonjour Adélaïde Ferrière, j'ai carrément honte de ce lancement. Est-ce que vous me pardonnez ?
Bien sûr.
On vous l'a déjà fait ?
Beaucoup de fois.
Vous êtes percussionniste classique. Cette année, en février 2020, vous avez sorti votre premier enregistrement sous votre nom. C'est son titre, je sais que j'ai du mal à dire, c'est Contemporary.
C'est ça ? Exactement.
Et c'est publié chez Évidence Classique. Et donc, il faut toujours féliciter les éditeurs de musique classique, car leur métier n'est pas simple. Pourquoi avoir fait ce disque ? Enfin, se dit cet album.
Eh bien, c'était pour mettre en avant toutes les possibilités qu'on peut avoir de la percussion et également dans le répertoire contemporain, puisque donc ce disque est vraiment dédié au répertoire phare de la percussion qui a eu un développement du répertoire très tardif. On a eu les premières pièces solistes après les années 50, donc c'est vraiment un répertoire très récent, donc et une esthétique particulière. Beaucoup de gens me connaissaient vraiment comme marimbiste autour de la transcription, donc vraiment dans le milieu du classique. Et j'ai voulu mettre en avant tout ce que moi j'avais développé donc pendant mes études au Conservatoire de Paris, par exemple, à travers toutes ces œuvres qui, pour moi, constituent vraiment les chefs-d'œuvre de la percussion contemporaine.
Alors, on trouve dessus du Xenakis, notamment. Oui. Vous pouvez en parler pour ceux qui savent pas qui est Xenakis, pardon.
Alors, donc, Yanis Xenakis, c'est un compositeur grec, tout à fait, qui s'est expatrié en France. Et donc,
pour des raisons politiques à l'époque.
Oui, tout à fait. Et donc, qui était vraiment très intéressé par la dimension architecturale de la composition, ainsi que par les formules mathématiques. Et il a écrit des compositions absolument extraordinaires pour la percussion. Ça a été d'ailleurs l'un des premiers compositeurs à mettre en avant la percussion sous un jour soliste, en utilisant vraiment la matière brute, la force sonore de la percussion. Et donc, à travers ses œuvres, qui sont la multiplication de formules mathématiques, vraiment basées sur des formules rythmiques qui se décuple, donc, qu'on peut aussi voir dans les deux pièces que j'ai choisi de défendre, les deux pièces qu'il a écrites pour percussion sol, donc Rebond et Psapha.
Quand on joue de la percussion classique, est-ce que c'est fini ? Je vais vous poser une question d'analphabète en musique, alors on ne dit pas analphabète, de B aussi en musique. Est-ce que ce qui compte, c'est la pulsation, le rythme, comme si vous jouiez du rock ou du jazz, ou il y a autre chose ? Est-ce que c'est vraiment un travail sur le rythme ?
Alors bien sûr, la percussion, c'est un petit peu la base de tout, c'est vraiment la rythmique, puisque bon, quand on est par exemple, alors nous on n'a pas une formation de batteur, mais même au sein de l'orchestre, on a quand même un rôle souvent qui est de pulsation rythmique, mais bien sûr il n'y a pas que celui-là, donc on a aussi des instruments à clavier où l'aspect mélodique et harmonique est très utilisé, donc avec une vision plus expressive de la percussion, et puis la percussion a aussi ce rôle de colorateur, donc on a beaucoup cette recherche du timbre, et puis avec la diversité de notre instrument qui fait qu'on a ces trois dimensions finalement dans cette famille d'instruments.
On vous écoutera tout à l'heure jouer du marimba, vous nous direz ce que c'est. Mais là, je voulais revenir, vous faites un album donc de percussion. Est-ce que c'est parce que vous en avez aussi assez d'être la fille avec la cymbale au fond de l'orchestre, celle qu'on regarde et qu'on se dit, bah dis donc, qu'est-ce que c'est, quel drôle de métier. On a dû vous le dire souvent, ça.
Alors, c'est vrai que il y a très peu de percussionnistes solistes sur le devant de la scène, mais bon, c'est un milieu qui se développe de plus en plus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment eu cette dimension qui s'est instaurée assez tardivement, mais qui continue sans cesse de se développer. Et donc, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup montrer au public et faire découvrir encore un plus large public toutes les possibilités qu'on peut avoir avec cet instrument. Donc, non seulement au fond de l'orchestre, mais aussi dans le récital, en soliste avec orchestre et puis dans la musique de chambre.
Vous participez à des orchestres ?
Alors, plus beaucoup maintenant. C'est quelque chose que j'ai fait par le passé, mais c'est vrai que maintenant, je me consacre plus...
Sans révéler votre âge, vous n'avez pas 30 ans.
Non, je n'ai pas 30 ans.
J'ai fait ça dans le passé.
Je l'ai fait pendant mes études. Et c'est vrai que maintenant, dans mon activité, c'est quelque chose que je ne fais plus. Je me concentre vraiment sur des formats de récital en solo ou en musique de chambre principalement.
Parce que justement, c'est frustrant d'être dans un orchestre ?
Non, pas du tout. Enfin, c'est loin d'être frustrant. C'est un autre métier, exactement. C'est-à-dire qu'on, bon, évidemment, on est un point où on ne peut pas tout faire, mais le métier d'orchestre est absolument incroyable aussi. Quand on est timbalier, c'est souvent considéré comme le deuxième chef d'orchestre. Donc, c'est aussi toute une autre dimension de la percussion.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'à ce moment-là, on a la maîtrise de la pulsation. Quoi. Lui, il est avec la main, et quand vous êtes timbalier, vous l'avez avec la timbale.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu le leader de l'orchestre, finalement.
On l'imagine pas forcément quand on voit. Alors, vous jouez en solo. Vous avez aussi créé un trio, le trio Xenakis. On en reparle avec Emmanuel Jacquier et Rodolphe Théry. Là aussi, c'est pour d'autres répertoires.
Oui, c'est pour mettre en valeur donc le répertoire pour musique de chambre, donc pour trio de percussion principalement. Et donc c'est un autre répertoire bien sûr, mais qui rejoint celui du solo, parce que par exemple Xenakis a écrit des œuvres pour solo et aussi une pièce maîtresse pour trio de percussion. Donc c'est aussi pour aborder tout ce répertoire pour trio.
Vous composez vous-même ?
Non, j'arrange seulement.
Alors ça veut dire quoi ? L'arranger, c'est par exemple quand vous prenez un morceau qui existe déjà et que vous l'adaptez ?
Exactement, bah, comme ce que j'ai fait par exemple avec la Rhapsody in Blue, donc, qui était pour piano ou pour orchestre, et que moi j'ai transposé pour marimba.
Alors là, on va justement l'écouter, on va en écouter un tout petit morceau. Vous êtes, dans l'extrait en tout cas, quand on le voit, vous êtes sur un toit New York, on vous voit jouer du marimba. On mettra le lien de la vidéo sur le site de la radio, c'est vraiment magique, on vous écoute un peu. On écoute très bien tout l'ensemble de la Rhapsody in Blue, mais j'ai malheureusement pas le temps. Pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
C'est un morceau que j'aime beaucoup.
Vous avez bon goût.
Merci beaucoup.
J'adore ce morceau.
L'un des premiers à être un petit peu entre classique et jazz également. Et puis bon, voilà, cet hommage à toute la musique américaine. Donc j'aime vraiment beaucoup cette Rhapsody.
Dans l'extrait, vous le jouez à New York, c'est vrai, c'est pas un trucage, vous êtes vraiment à New York sur un toit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je l'ai vu, quand je vous vois sur ce toit, j'ai peur pour vous parce que j'ai le vertige, mais vous êtes vraiment à ce moment-là ?
Oui, ce n'est pas en fond vert, c'est vraiment un toit en plein New York, à Midtown justement, en plein milieu de Manhattan, et c'était une superbe expérience.
Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de jouer cette musique qui est new-yorkaise, qui est la quintessence de New York, sur un toit à New York ? J'imagine que c'est une expérience dingue.
C'était génial, oui. En plus, on avait un point de vue absolument extraordinaire, donc c'était une superbe expérience.
Ouais, on voit la caméra par moment, on voit l'Empire State, vous êtes vraiment au milieu. C'est quoi un marimba ?
Alors le marimba, c'est comme un grand xylophone. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un xylophone. C'est-à-dire que c'est la même famille d'instruments. C'est un clavier de lame de bois, donc le plus souvent en bois précieux de palissandre ou bois de rose. Et donc, on a 5 octaves qui sont disposées comme les touches d'un piano. C'est-à-dire qu'on a les lames non altérées sur le tableau du bas comme les touches blanches. Et puis les notes altérées un petit peu en hauteur surélevée comme les touches noires. Et donc, ces lames sont mises en résonance par des grands tubes en aluminium qui donnent toute la résonance et la profondeur de son à la lame. Et puis, c'est joué avec 2 ou 4 baguettes.
Et vous jouez à 4 baguettes, j'ai vu.
Oui, le plus souvent. Ça peut arriver à 2 aussi, mais c'est vrai que la technique est souvent à 4.
J'ai lu que vous aviez étudié au conservatoire de Dijon, mais aussi à Londres. Et je voulais savoir si dans ces instruments de percussion, il y avait une école anglaise et une école française. On entend souvent ça pour les autres instruments de musique. Des gens qui jouaient des cordes m'ont dit ça. Est-ce que c'est pareil dans les percussions ?
Alors, il y a bien sûr plusieurs écoles. Par exemple, on a plusieurs techniques de 4 baguettes au marimba. Donc, on en a 3 les plus communes, c'est-à-dire Burton, Stevens et puis traditionnel. Donc là, selon les régions, enfin, même en France, il y a plusieurs écoles dans un même pays. Enfin, il n'y a pas trop d'écoles qui sont qui appartiennent à un pays. On a plus l'école française, l'école allemande pour l'orchestre, par exemple. Donc voilà, ça dépend vraiment vu que la percussion... En plus, c'est un univers qui est très grand. Ça dépend de chaque instrument et de chaque technique particulière.
Vous jouez combien de percussions différentes ?
Je ne saurais pas vous dire.
Il y en a encore à tester, à apprendre.
Oui, moi, je fais beaucoup de créations contemporaines. Et des fois, même des compositeurs nous font découvrir des instruments. Ça peut être aussi des objets du quotidien. Donc, la percussion, c'est vraiment un univers infini. On peut avoir la percussion corporelle. Donc ça
vous faites aussi ?
Oui, ça peut arriver.
Vous n'avez aucune limite ? Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien vous demander. Hein. Non, mais c'est intéressant. C'est, est-ce que vous limitez aux instruments existants ? Est-ce que vous cherchez des fois des sons des...
Non, on peut chercher des sons, ça peut être aussi...
Je sais pas, où est-ce que quand vous êtes dans votre cuisine, vous tombez folle en entendant un bruit et vous vous mettez à jouer ? Est-ce que vous aimez une sonorité ?
Non, quand même pas, mais des instruments de cuisine peuvent très vite se transposer en instruments de percussion. D'ailleurs, dans le disque, le Psafa, il y a des casseroles, par exemple.
Mais justement, j'allais vous demander, est-ce que quand vous étiez petite, vous tapiez sur les casseroles comme tous les enfants ?
Je me rappelle pas, mais non, je pense pas.
Est-ce qu'en tout cas vous jouiez de la musique ?
Oui, j'ai commencé assez jeune, bien sûr, l'apprentissage autour de 8 ans, l'apprentissage musical. Donc,
vous jouiez quoi à l'époque ?
Piano, percussion. J'ai commencé par ces deux instruments.
Et à quel moment vous choisissez plutôt la percussion que le piano ? Et surtout pourquoi ?
Alors j'ai choisi vraiment de me professionnaliser, c'est-à-dire de devenir concertiste en percussion aux alentours de 13-14 ans. Parce qu'il y avait dans la percussion un challenge de développer un nouveau répertoire, c'est un instrument nouveau, également la diversité infinie de l'instrumentarium, la recherche du timbre, et puis l'aspect scénique qu'on peut avoir avec la percussion. Moi j'ai fait beaucoup de danse, donc il y a un aspect chorégraphique également avec les instruments, et puis voilà, de passer d'un instrument à un autre.
Ça veut dire que quand vous jouez, vous pensez aussi au geste que vous faites, au spectaculaire du geste, c'est...
Non, je ne le pense pas, en fait je pense que ça vient naturellement avec l'intention musicale que l'on veut donner, le geste, enfin, on est obligé physiquement de suivre parce qu'on a des instruments qui sont très grands, donc voilà, on est obligé de s'adapter par rapport à ça, donc ça vient simultanément.
Et vous travaillez vos muscles des bras ? C'est une question que je me suis aussi demandé en vous regardant, non. Parce que ça doit être très fatigant au bout d'un moment.
C'est assez physique comme instrument, c'est sûr, mais moi je ne fais pas de renforcement musculaire ni rien. Après, il y a quand même c'est vrai qu'il y a une hygiène de vie à côté assez soutenue.
Ouais, vous faites très attention quand il y a une porte, que de ne pas vous faire broyer un doigt.
Oui, voilà, exactement.
Vous êtes très prudente, j'imagine. Vous faites, vous faites attention.
Ouais, mais ça, c'est
tous les musiciens. Ouais,
tout à fait.
Effectivement. Et vous avez jamais été tenté par d'autres répertoires que le classique ?
Si, alors c'est vrai que j'ai toujours adoré le jazz, mais je l'ai jamais étudié. Donc, par exemple, moi, je n'improvise pas. Mais voilà, après, on peut avoir des projets où, même dans le contemporain, on peut avoir des rapports avec la musique électronique, par exemple. Donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup aussi, un petit peu dépasser les frontières de la musique classique.
On est mi-octobre, on a un couvre-feu en ce moment. Est-ce que vous, en ce moment, vous avez des projets, vous avez des dates à l'ordre du jour ?
Oui, alors il y a quand même des dates en novembre qui se maintiennent. Alors il y en a beaucoup en province, donc on n'est pas impacté par ce couvre-feu. Et puis, fort heureusement, les dates parisiennes que j'avais sont en journée.
Ah, vous écouter où si on a envie ? Alors, on va vous entendre. Hein. On va lancer Once to Die by John Psata. J'arriverai pas à le dire. John
Psata,
voilà, merci. Vous allez aller où à Paris bientôt ?
Alors à Paris, le Théâtre des Champs-Élysées avec Bertrand Chamaillou, Jean-Frédéric Neuburger et Gilles Duroux pour la sonate de Bartok le 6 décembre. Et puis le 15 décembre, alors c'est encore à confirmer, un concert à Paris aussi qui va se définir.
Pourquoi vous êtes dans un hangar avec des avions quand vous jouez ce morceau ?
Alors parce que
sur la vidéo que j'ai trouvée en tout cas, il y avait un cadre particulier.
Exactement, la pièce One Study, en fait, elle évoque la mise en route d'un moteur finalement. En fait, la pièce est construite autour de cette idée-là. Et donc moi, je me suis dit pourquoi pas le faire dans un environnement avec les avions pour imiter le moteur d'un avion.
Et vous aimez faire ça, justement, trouver des concordances visuelles, de créer un univers complet ?
Oui, tout à fait. La vidéo, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et justement, trouver des choses en lien avec la pièce, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire également.
Parce que moi je connaissais pas du tout, c'est un morceau magistral, on est bien incapable de savoir si c'est du classique ou autre chose, mais c'est incroyable. Vous avez aimé le jouer ?
Oui, bien sûr, c'est une pièce que j'aime beaucoup, c'est une pièce assez récente aussi, mais qui fait partie intégrante du répertoire de Marimba.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Merci à vous. Alors pardon, j'ai perdu votre nom, c'était un peu compliqué aujourd'hui. Adeline Ferrière, merci d'être venu. Je voulais vous poser une question sur votre victoire de la musique. On va juste dire que vous avez eu une victoire de la musique comme meilleur instrumentiste il y a quelques années. Bravo.
Merci beaucoup.
Et merci encore d'être venu. C'était La Relève. On se quitte donc avec John Psatas aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? Que c'était présenté, préparé par Christophe et que c'était réalisé merveilleusement, comme d'habitude, par Antonin. Merci à lui.
Radio. Campus. Paris.